France Inter, 19h21.
France Inter, le 18-20.
Le 18-20, ce soir, sur le cerveau, l'équipe du téléphone sonne, adore regarder les rues de tempête qui soufflent sous nos crânes. Notre invité est neurologue et chercheur en neurosciences. Il connaît le cerveau comme sa poche. Il a publié de nombreux livres sur le sujet. Le dernier en date s'intitule « Le chant du cygne » chez Odile Jacob. Cygne, S-I-G-N-E. Quel est ce chant? On va en parler avec lui tout de suite. Alors, amis auditeurs, intervenez sur tous les sujets cérébraux qui vous viennent à l'esprit ou qui hantent votre inconscient. Si vous avez aussi besoin d'une rapide consultation en neurologie, Lionel Nakache vous la donnera. J'attends donc vos appels au 01 45 24 7000, vos questions sur franceinter.fr et via Twitter avec le mot-clé Telson.
Nicolas Demorand, le téléphone sonne.
Lionel Nakache, bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'avoir accepté notre invitation, neurologue et chercheur en neurosciences cognitives à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière de la Salpêtrière, auteur donc du Chant du cygne, sous-titre Aventures et mésaventures de nos interprétations quotidiennes. C'est chez Odile Jacob. Alors expliquez-nous cette histoire de cygne. Comment ça fonctionne? À quoi le cerveau réagit-il quand il voit un cygne? Donc déjà, première question, qu'est-ce qu'un cygne?
Alors un cygne, ici je me suis intéressé aux cygnes symboliques, c'est-à-dire des cygnes qui sont des symboles, autrement dit un cygne qui a une forme, hein, un signifiant, mais qui est associé à un sens, un signifié, et on est censé, lorsqu'on est face à ces cygnes, comprendre quelque chose. Et ce qui m'a intéressé précisément, c'est de prendre le prétexte des cygnes, parce qu'on on a des ce qu'on appelle des collisions avec des cygnes, on rencontre des cygnes, nous comme des individus, toute la journée, et
par
de plus
exemple,
en plus.
Quelques cygnes, par exemple.
Par exemple, des cygnes dans l'environnement urbain, des feux rouges, des panneaux de signalisation, n'importe quoi, des signes de métro, des signes de banque ou sur nos téléphones portables, des signes de batterie. De plus en plus, on est en rapport avec des signes. Et j'ai voulu prendre cet intérêt pour cette rencontre, presque une sorte de dispositif presque théâtral entre un individu qui arrive avec sa subjectivité, avec ses pensées, etc. Et il entre en collision avec quelque chose qui n'est pas un sujet, qui est un signe. Mmh. Pourquoi je veux faire ça? Parce qu'en fait, un des résultats fondamentaux en fait, de notre discipline, les neurosciences de la perception au cours des 20 dernières années, c'est qu'il faut comprendre que quand nous percevons quelque chose, la perception, c'est plutôt comme une action. Autrement dit, on n'est pas passif devant un signe. Simplement, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux temps. Et c'est ça le truc principal. C'est que vous êtes, bon, même quand on se regarde là maintenant, ou lorsqu'on est face à un signe dans le métro, etc., il y a un premier temps qui va durer moins d'une demi-seconde, durant lequel votre esprit-cerveau, je mélange les deux, c'est volontaire, va commencer à produire...
Ça va pas de soi, hein, pourtant.
Ça va pas de soi, on pourrait
y
revenir.
On va y venir.
Eh bien, votre esprit-cerveau va produire une interprétation dont nous n'avons pas conscience. Donc, ce n'est pas qu'il répond à un ordre du signe. Il n'y a pas un feu rouge et ça active. En fait, à chaque fois...
C'est un réflexe.
C'est pas, alors, dans le cas du feu rouge, on va être, par l'automatisation, on pourra faire que ce processus actif, il va devenir très automatique. Mmh. Ça, c'est vrai. Mais néanmoins, il reste à chaque fois la création de votre cerveau. Autrement dit, à chaque fois que vous voyez un signe, ce n'est pas le signe qui vous donne un ordre, c'est vous qui reconstruisez le sens du signe. Et ça, on ne le sait pas. C'est inconscient. Ça dure un peu moins d'une demi-seconde, 2 à 3 dixièmes de seconde, on ne le sait pas. Mais ce que nous savons, c'est qu'à un moment donné, nous, subjectivement, on dit « Ah, il y a un feu rouge !» ou bien « Il y a un panneau de signalisation !» Autrement dit, la perception a deux temps, et on va revenir là-dessus. Si on pose ce décor, ensuite on pourra bien creuser, il y a toujours un premier temps qui dure 2 dixièmes de seconde. On ne sait pas qu'on fait quelque chose, mais inconsciemment, notre cerveau construit une interprétation du signe. Et nous, en fait, subjectivement, comme ça, dans notre posture un peu, pas narcissique, mais qui nous sommes, ce que nous voyons du monde, eh bien, dans un deuxième temps seulement, donc ce deuxième temps de la perception, qui vient vers 3 dixièmes de seconde, ce qu'on reçoit, c'est pas à nous de faire le travail, on reçoit déjà le résultat de ce premier travail interprétatif. Autrement dit, quand vous voyez une bouteille, eh bien, je vois la bouteille, la chose dont je prends conscience, c'est que c'est une bouteille, mais ça vient pas... Le fait que, que c'est une bouteille, que je le comprenne, c'est le résultat de ce processus d'interprétation.
Mais pourquoi... Enfin, que vient faire l'inconscient là-dedans? Alors, j'ai peut-être pas la bonne définition de l'inconscient.
Il est possible que vous restiez dans une topique freudienne,
voilà,
c'est possible.
Voilà, alors moi je me dis, bon, mon inconscient n'a rien
alors,
à voir avec ça. Quoi.
Au début, on peut être d'accord d'ailleurs avec Freud. Freud, au début, lorsqu'il essaye même dans la pédagogie de qu'est-ce que c'est que l'inconscient, il commence par dire les choses clairement. La conscience, c'est facile, c'est ce que nous avons à l'esprit. Ce que nous disons aujourd'hui, c'est ce que nous pouvons nous rapporter, ce que nous savons que nous sommes en train de voir ou de percevoir. Et il commence, Freud, par dire, eh bien, tout ce qui échappe à ça, autrement dit, si on a des raisons de penser qu'il se passe des choses en nous, que nous ne sommes pas capables de nous rapporter, de nous dire « je pense ça » ou « je vois ça ». Mais que néanmoins, on a la capacité de montrer que ces choses-là existent, on va appeler ça l'inconscient. Une sorte, vous voyez, de description, on appelle ça un inconscient descriptif. Après, Freud va inventer, je dis plutôt inventer que produire, ces théories pour donner un sens, pour dire au sein de l'inconscient, il y a par exemple du préconscient, de l'inconscient, du refoulement. On met ça de côté. Je veux dire, c'est pas, et pour plein de raisons, je pense qu'on peut relire aujourd'hui la notion d'inconscient et proposer une grille de lecture qui est différente de celle de Freud.
Pourquoi vous dites collision entre les signes et le sujet?
Alors juste pour prendre une sorte d'analogie avec la physique. Dans la physique, par exemple, vous savez, pour comprendre comment ça marche un système, vous envoyez une particule contre l'autre. C'est comme ça qu'on a découvert, même très récemment, vous vous souvenez, le boson de Higgs, là, nos collègues, moi je ne suis pas physicien, mais alors là, le dispositif est le même, c'est que j'aimais bien l'image, et d'ailleurs on peut utiliser ça comme méthode, c'est que vous avez un sujet qui se promène dans sa vie, dans la rue, voilà, avec ses pensées en tête, ses problèmes, et puis boum, il rencontre un signe. Qui peut être n'importe quoi, un mot, un symbole sur son téléphone, sur son écran, dans la rue. Et de cette rencontre, cette collision, cette rencontre-là, va naître une interprétation. Ce que le bonhomme va comprendre de ce qui lui arrive. Et le point central peut-être du livre, pour que nos éditeurs puissent comprendre de quoi il s'agit, c'est que pour comprendre ce que je dis qui peut paraître un peu abstrait, autrement dit, que le premier temps de la perception, c'est une construction active dont nous n'avons pas conscience. La meilleure façon d'en prendre vraiment conscience, c'est soit d'aller au laboratoire, dans le mien où je travaille ou ceux de mes collègues, soit de voir des patients neurologiques ou psychiatriques chez lesquels on voit que ça pose un problème. Mais chez le sujet qui va bien, qui est dans la vie tous les jours, une façon de s'en rendre compte, c'est quand votre interprétation du signe est incorrecte. Quand vous vous trompez, on peut donner un exemple. Je prends un exemple, j'étais à Lisbonne il y a quelques années, je vais dans un ascenseur, je monte dans un hôtel d'une conférence où je devais parler, et puis je suis un peu fatigué et je vois marqué Pessoa. Et la chose dont je prends conscience, c'est « Ah, il y a le nom de l'écrivain Pessoa dans l'ascenseur » et je pars ensuite en vrille en me disant « Ah oui, Lisbonne est une sublime capitale européenne qui arrive à mettre le nom de ses auteurs dans les lieux communs » avant de comprendre, ensuite voir que c'est 320 kilos, 4 Pessoa avec un S, et ah, c'est un Pessoa, oui, ça veut dire personne, je ne parle pas le portugais, mais voilà. Donc ça, c'est un exemple. À quoi ça sert ces exemples? Ça peut être des minuscules histoires. C'est une fois que vous comprenez que vous aviez mal compris, ça prouve que ce que vous aviez compris ne venait pas du signe, mais venez de vous. C'était vous qui étiez à l'œuvre et qui avez bâti une interprétation. Alors, c'est plus facile de voir que vous construisez une interprétation quand celle-ci est incorrecte. Mais la philosophie générale, c'est que même quand vous comprenez bien les signes, c'est vous qui êtes l'acteur.
On va donner la parole à Gwenaël pour ouvrir ce téléphone sonne. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir à tous, à vos intervenants, et merci pour la qualité de vos émissions.
Merci à vous, on vous écoute.
Donc, j'avais une petite question concernant la plasticité cérébrale et la capacité qu'avait le cerveau à récupérer les espaces alloués rendus disponibles par la perte d'un membre ou la perte d'un sens. Est-ce que ça peut aller jusqu'à rendre un sens douloureux? Dans le sens, si on perd un œil par exemple, est-ce qu'on peut augmenter ses capacités sensorielles au niveau auditif ou au niveau tactile jusqu'à ce que ce sens en devienne douloureux?
Merci pour cette question. Lionel Nakache vous répond.
Alors oui, merci Gwenaël. En fait, c'est ce champ que vous avez souligné, la plasticité cérébrale, notamment après, par exemple, la perte d'un œil. Alors notamment pour la vision, vous parlez de ça. Et dans notre laboratoire, Laurent Cohen et mes collègues, en fait, s'intéressent précisément à ça. Autrement dit, en étudiant des patients qui sont des aveugles congénitaux, ça veut dire qu'ils n'ont jamais vu, c'est particulier, mais non pas à cause d'une lésion cérébrale, mais comme vous le disiez parfaitement bien, à cause d'un problème visuel. Les yeux, pour des raisons X, Y, ne font que la lumière n'a jamais été perçue par les sujets. Et alors, ce que l'on sait depuis longtemps, hein, ça c'est pas une découverte nouvelle, c'est qu'effectivement, les régions dont on apprenait à la fac de médecine que c'est le cortex visuel, en fait, ça devient investi dans une autre modalité, notamment pour la modalité somesthésique. Et donc, c'est souvent des sujets, on ne peut pas parler de patients d'ailleurs, ce sont des sujets qui ont un espace sensoriel, par exemple, pour le toucher, qui est beaucoup plus développé que d'autres sujets. Alors, du coup, une partie de votre question, oui, il y a de la plasticité qui est considérable, mais qui dépend, alors, ce n'est pas magique, tout n'est pas possible. Il y a des limites à cette plasticité, le facteur de l'âge dépend, le facteur de... Donc, par exemple, après un accident vasculaire, on ne va pas avoir le même plasticité si on a 10 ans ou si on a 70 ans. Mais ce phénomène existe. Et puis ensuite, pour votre question très précise de la douleur, non, pas directement, pas à ma connaissance. Ce qu'il y a par contre, c'est que chez les amputés, eh bien, les régions qui continuent à représenter le membre qui n'est plus là peuvent se mettre en fait à représenter le membre dans une position physique qui est impossible. Imaginez par exemple votre avant-bras qui est plié vers l'arrière, ce qui est impossible. Mais comme le bras n'est pas là, eh bien, le cerveau joue avec cette carte et génère des configurations qui sont physiquement impossibles sur ce membre amputé, mais qui peuvent donner des douleurs intolérables. Et notre collègue Rama Chandran, qui est un neurologue américain d'origine indienne, avait montré que dans ce cas-là, on peut faire supprimer la douleur en renvoyant visuellement au patient amputé une fausse image de son membre dans une position correcte, qui oblige le cerveau à annuler cette carte qui était une carte douloureuse en mettant simplement la main opposée dans un miroir. Et vous savez, il y a les deux mains en miroir, la chiralité. Et donc, quand la main est amputée à gauche, si on met la main droite dans une boîte avec deux miroirs, le sujet va pouvoir voir le reflet de sa main en miroir, donc une fausse main gauche. Et immédiatement, ça supprime la position vicieuse imaginée par la carte cérébrale et supprimer la douleur.
Et donc, une fiction peut faire mal.
Ah, une fiction peut faire mal, au sens, absolument, au sens subjectif, c'est-à-dire une interprétation. Et peut-être que vous parliez de Freud tout à l'heure comme héritage culturel. Ce que je conserve, moi, de Freud, avec beaucoup d'admiration par ailleurs, c'est que je crois que sa théorie de l'inconscient ne marche pas, on peut en discuter. Par contre, ce sur quoi il a mis le doigt de manière considérable, c'est que il y a quelque chose de très important, c'est la conscience. Et quand nous sommes conscients, nous nous rapportons des choses, nous construisons des interprétations. On l'a vu, je le dis tout à l'heure, pour un panneau de signalisation, mais c'est vrai aussi pour votre propre vie, pour la façon de laquelle vous vous représentez qui vous êtes. Et ces fictions-là, j'appelle ça fiction parce que c'est un matériau de croyance plutôt qu'une réalité, ces fictions-là, elles peuvent parfois être douloureuses. Et on sait aujourd'hui, ça c'est intéressant, que lorsque nous avons une douleur psychologique, eh bien, la façon de laquelle c'est représenté dans notre cerveau, ça utilise le même circuit que la douleur physique. Autrement dit, s'il y a une superposition du vocabulaire, on dit par exemple dans les relations sociales, l'expression que tu m'as dite, ça m'a fait mal, ou tes mots m'ont touché, ou ça m'a heurté. Si on fait attention au vocabulaire, l'analyse sémantique des mots nous montre que c'est du registre de la douleur. Eh bien, effectivement, la douleur psychologique, nous la comprenons en utilisant les circuits beaucoup plus anciens de la douleur physique.
Jean, bonsoir.
Oui, bonsoir messieurs.
Bienvenue.
Merci de prendre mon appel.
Je vous en prie.
J'avais une question à poser. Qu'est-ce qui se passe autour du cerveau lorsque l'on met une personne en hypnose ?
Merci Jean pour cette question. Qu'est-ce qui se passe alors Lionel Nakache ?
Il faut d'abord être humble, on connaît encore peu de choses. Et il faut savoir que l'hypnose dont vous parlez, vous avez parfaitement raison d'en parler, c'est quand même un phénomène qui est très très large. C'est-à-dire que vous allez avoir une gamme, la définition du phénomène déjà nécessite de faire attention. Il y a certaines personnes qui vont dire que le simple fait de parler, vous êtes déjà en hypnose. Et puis d'autres qui vont dire non, il faut un protocole de suggestion hypnotique, etc. Ceci étant mis de côté, on commence à disposer de travaux. Et nous avons fait nous-mêmes quelques expériences sur l'hypnose. Mais des collègues l'ont fait. En fait, ce qui se passe, l'hypnose, c'est un état de conscience. Alors pourquoi c'est un état de conscience ? Parce que quand vous êtes dans un état d'hypnose, vous pouvez continuer à vous rapporter des choses, à vous dire des choses sur ce qui vous arrive. Simplement, ce qui se passe, alors c'est ça la métaphore qu'on peut donner rapidement, c'est que dans l'hypnose, ce qu'on appelle les fonctions exécutives, c'est-à-dire le contrôle vraiment de votre pensée, vous arrivez à avoir suffisamment confiance en quelqu'un d'autre, en l'occurrence l'hypnothérapeute, pour remettre, en tout cas au début de la session d'hypnose, vos contrôles exécutifs entre les mains d'un autre cerveau, d'une autre personne, et ce qui va un peu du coup piloter ce qui vous arrive, pour vous aider ensuite vous à re-rentrer, et vous le disiez tout à l'heure Nicolas Demand, dans une fiction. C'est-à-dire vous rentrez dans un nouveau schéma imaginatif, très conscient, qui va vous permettre X choses. Alors on connaît tous l'hypnose pour arrêter de fumer par exemple. Moi l'hypnose que je trouve de loin la plus intéressante, parce qu'on peut directement étudier de manière extrêmement directe ce que ça veut dire, c'est vous savez qu'il y a des anesthésistes, on a des collègues anesthésistes, qui utilisent l'hypnose pour arriver à diminuer, voire supprimer, en fait, la prescription d'agents anesthésiques, pharmacologiques, pour arriver à supprimer les douleurs d'une intervention. Alors,
comment on fait ça ? Je veux dire, le cerveau est leurré, il est endormi, il est dérivé. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue cérébral ?
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ça revient sur ce qu'on disait au tout début. C'est vraiment un message clé, je pense que c'est très important. La perception, c'est toujours deux temps. Il y a un premier temps qui n'est pas conscient, qui peut ou pas accéder à la conscience. Ce qui fait qu'au moment où nous parlons, dans nos cerveaux respectifs, il y a plein de choses qui sont traitées inconsciemment, mais il y a une fraction seulement de ces choses-là qui vont arriver à notre conscience. Eh bien, dans l'hypnose, ce qui se passe, c'est que pendant que quelqu'un est en train de se faire un peu charcuter, on va arriver à orienter son attention consciente vers un autre matériau, vers une autre pensée. Par exemple, en lui faisant arriver à rentrer dans un scénario selon lequel il n'est pas là. Il est par exemple dans un lieu qui lui plaît, à une époque de sa vie qui lui plaît. Il marche sur une plage, chacun doit trouver son scénario si vous voulez. Et une fois que le bonhomme est à fond dans ce processus, eh bien le stimulus qui peut faire mal, il a le premier temps de perception dans le cerveau, ce premier temps inconscient, mais il ne passe pas l'accès au deuxième temps, donc on empêche la prise de conscience. On appelle ça, si nos auditeurs veulent creuser ça, on distingue la nociception de la douleur. La nociception, c'est le premier temps inconscient, mais pour les informations qui pourraient donner de la douleur. Et la douleur, c'est l'expérience consciente, j'ai mal.
Donc la fiction peut faire mal et elle peut être aussi un antalgique.
Absolument.
Mais
absolument.
C'est incroyable.
Oui, mais c'est en même temps pas totalement. Ce qui est nouveau, c'est, je vais vous dire franchement, je pense que ce qui est nouveau, c'est le regard qu'on peut jeter aujourd'hui avec, qu'on peut porter aujourd'hui avec nos travaux ou avec les neurosciences. Mais ce sont des choses qui ont été décrites auparavant déjà. Je veux dire, par exemple, faire l'apologie de la vie mentale intérieure. Du fait que ce qui nous distingue de beaucoup d'autres espèces animales, c'est notre capacité à développer une vie intérieure, un roman de soi, par exemple. Eh bien, ça, on a toute la littérature qui nous dit, on a la philosophie qui nous l'a dit. Donc ça, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est de rentrer dans la mécanique cérébrale de la subjectivité. Moi, c'est ça, en fait, si on devait définir un peu ce que je fais, c'est plutôt ça. C'est de rentrer dans comment ça se passe, le fait qu'effectivement, on peut, si par exemple ce que je vous dis vous ennuie, vous pouvez essayer de ne plus être là, de ne plus être assis ici et maintenant, et de penser à votre week-end ou à autre chose.
Et ça fait un blanc à la radio, comme on dit.
Alors c'est vrai, vous êtes peut-être contraint par ça.
Parlez-nous de votre ami mathématicien Mathieu Corps.
Oui, alors Mathieu Corde, qui qu'on prononce son nom Corde, C-O-R-D, c'est un exemple, voilà, je prenais un exemple dans ces accidents de collision. On revient au dispositif un peu voilà, minimal. Vous avez un individu avec ses croyances, sa pensée, etc. Et il va entrer en collision avec un signe. Et je voulais illustrer que cette période où on fait des accidents de collision, où on comprend mal les signes, c'est beaucoup pendant l'enfance. Pendant l'enfance, comme on est encore en train de rencontrer les signes pour la première fois, et notamment les mots entendus du langage, vous allez fourmiller vous-même ou vos amis de souvenirs où on s'est trompé, où on a pris un mot pour un autre. Alors Mathieu Corde, qui je le salue s'il nous écoute, en fait, lorsqu'il entendait enfant l'expression « il tombe des cordes »,
il pensait qu'il tombait des membres de sa famille, c'est
ça ? Oui, Corde, c'est son nom de famille. Donc, il tombe des cordes, il n'a jamais entendu cette expression. Et il avait cette sorte d'angoisse d'imaginer des membres de sa famille qui tombaient comme ça des cieux avant de comprendre ce que ça voulait dire.
Alors, juste avant de redonner la parole aux auditeurs de France Inter, Philippe nous attend au standard. Une question sur le moment donc où le cerveau n'obéit pas, je le dis dans mes mots qui sont profanes, n'obéit pas aux signes, ou disons... répond aux signes de manière bête et méchante. Le feu est rouge, je m'arrête. La lumière là est rouge à la radio, je me mets à parler. Elle s'éteint, j'arrête. Bon, quand ça bug, c'est là que naît la liberté.
On peut dire ça. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est ça qui est très intéressant et qui m'a amusé aussi dans cet exercice. C'est que vous trouvez des situations où l'erreur de compréhension d'un signe vous révèle à vous-même comme sujet libre, autrement dit comme un sujet qui, même lorsqu'il va finir parfois par comprendre correctement le signe, cette compréhension correcte, elle vient de lui, elle ne vient pas du signe. Et donc effectivement, l'erreur nous révèle, c'est ça l'objet de ce livre, c'est que l'erreur nous révèle dans ce que nous avons de libre. Et ça m'a semblé un enjeu important, à la fois, disons, éthique, humaniste, intellectuel, mais aussi parce que on est de plus en plus en face de signes qui sont conçus par la signalétique pour que nous comprenions parfaitement ce qu'ils veulent dire. Autrement dit, on est dans des situations de plus en plus souvent où nous n'avons pas vraiment la capacité d'éprouver notre liberté face aux signes. Et en fait, l'objet de ce livre, c'est de montrer qu'effectivement, comme vous le dites parfaitement, en se trompant, on comprend qu'on est libre.
Philippe, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
Merci de prendre ma question. Je trouve l'émission vraiment très plaisante et c'est presque une mise en abîme magnifique puisqu'on parle de cerveau et en même temps vous sollicitez beaucoup le nôtre grâce à la qualité de votre intervenant.
C'est Nakache qui fait tout.
Ah bah oui, non mais vous l'aidez bien aussi.
C'est gentil.
Simplement, je voulais poser la question, on parle beaucoup, moi par exemple, je travaille dans le milieu automobile et maintenant dans le digital et les deux se télescopent et tout à l'heure... le docteur nous a parlé de la possibilité à un moment de reconnaître un signe et on parle aujourd'hui beaucoup d'intelligence artificielle, on n'a pas besoin d'un homme finalement pour reconnaître un signe et je voulais savoir quelle était selon lui la singularité du cerveau, du fonctionnement du cerveau par rapport à toutes ces innovations qui nous arrivent et qui peuvent peut-être nous effrayer sur la capacité de la machine de réagir justement seule à des signes tels qu'il les a présentés.
Merci Philippe pour cette question. Lionel Nakache vous répond.
Alors d'abord, je remercie beaucoup Philippe, qui me touche beaucoup et qui va peut-être être déçu par le fait de mon humilité. C'est qu'à la fois sur le cerveau, je connais pas tout, évidemment. Et alors sur l'industrie automobile et sur cet univers que vous évoquez, je connais encore moins. Par contre, ce que je peux donner comme élément de réponse, parce qu'il y a beaucoup de choses. Un premier élément, c'est que ce qui distingue le cerveau aujourd'hui de toutes les intelligences artificielles, mais n'oublions pas que c'est une intelligence artificielle, il ne faut pas toujours les considérer comme des objets froids, parce qu'elles sont quand même le fruit des intelligences humaines, quand même. Donc, elles reproduisent des schémas qu'on utilise. Alors, une des différences, vous voyez, par exemple, je pense à... Tout le monde a entendu parler de l'algorithme qui a battu le champion de Go ou le champion d'échecs, Kasparov, à l'époque, etc. Une des différences majeures, et pour l'instant on ne sait pas encore faire ça, ça ne veut pas dire qu'on ne saura pas, mais on ne sait pas, c'est que pour arriver à entraîner un algorithme mathématique qu'on appelle le deep learning, d'apprentissage profond, pour atteindre une performance qui va être identique, voire supérieure à celle d'un humain, eh bien en réalité, il faut le soumettre à un nombre de situations, par exemple nombre de parties d'échecs ou nombre de parties de Go, qui va être de l'ordre de plusieurs millions, voire milliards de parties. Autrement dit, alors qu'un cerveau humain, parfois, en une simple exposition, une simple rencontre avec un signe que vous n'avez pas vu avant, vous êtes capable d'élaborer une solution. Pour l'instant, on ne sait pas comment, on n'arrive pas à reproduire cette rapidité, en fait, cette richesse. Et ça, effectivement, peut-être, c'est lié pour l'instant. Alors, je ne veux pas prendre des grands mots, c'est peut-être pas le propre de l'homme, mais en tout cas, ce qu'on voit dans l'intelligence humaine, qu'on ne voit pas encore, qu'on a du mal à faire dans les machines, c'est que l'interaction, et je reviens sur les deux temps de la perception, le premier temps inconscient, il a des richesses. Les richesses, c'est qu'inconsciemment, notre cerveau, il peut faire plein de choses en parallèle les unes des autres. Mais il y a aussi le deuxième temps conscient. Alors, il est plus limité parce qu'on prend conscience de peu de choses. Mais quand vous êtes conscient, vous êtes capable d'imaginer toutes les opérations mentales que vous savez faire dans votre esprit. Et il y a un dialogue entre les deux. Et ce livre en parle aussi. C'est que consciemment, nous influençons la manière dont notre cerveau interprète inconsciemment le monde. Et donc, dans cet échange avec les deux partenaires, que sont le pôle conscient et le pôle inconscient, qui ont chacun, on va dire, leurs forces et leurs faiblesses, on atteint pour l'instant des niveaux de performance, mais surtout des niveaux de pensée et des niveaux de richesse de pensée qu'on a du mal encore à reproduire dans l'intelligence artificielle.
Jean-Claude, par courrier électronique, vous pose la question suivante. Y a-t-il un moyen, une technique pour contrôler ce qui échappe à notre conscience dans notre quotidien ?
Ah oui, il y a des techniques. Je vais vous donner un exemple très simple. Souvent, vous savez, en science, les choses simples peuvent paraître triviales. Hein, la pomme qui tombe, vous vous souvenez de Newton, etc. Eh bien, vous pensez... Il y a un signe, il y a des signaux, on pourrait même dire des signaux, qui ont été conçus pour que, quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez, même si vous êtes avec la personne que vous aimez le plus dans votre existence, ou même si vous pensez métaphysique avec un ami, et que vous pouvez du coup être absorbé, ne penser rien, on a besoin d'inventer des signaux qui, si on les joue, vous allez nécessairement prendre conscience, ça s'appelle des signaux d'alarme. Et si vous réfléchissez, les signaux d'alarme, les alarmes aussi bien auditives, hein, sonores, que visuelles, elles ont été conçues avant même qu'on connaisse bien la psychologie de la conscience et l'architecture cérébrale de ça, mais ce sont des signaux qui ont été conçus précisément pour qu'ils puissent, dans les deux temps de la perception qu'on a posé au tout début, il y a le premier temps, mais à tous les coups, ils vont passer au deuxième temps.
Une question de Paul, toujours par courrier électronique. Est-ce que l'inconscient évoqué par l'invité ne serait pas notre moi animal, Paul met des guillemets, qui prend conscience des choses de façon plus réflexe et qui se cache de notre conscience? Ce moi animal pourrait peut-être préserver l'esprit du stress environnemental.
Alors c'est une belle proposition. Ce qu'il y a évidemment, c'est que ça demande, et là je sors à l'instant d'un congrès justement à Paris de Human Brain Project, c'est que dès qu'on parle de ces sujets, il faut bien prendre le temps de poser les définitions des termes qu'on veut utiliser, notamment dès qu'on parle de conscient, inconscient. Alors qu'est-ce que je peux répondre comme ça? L'aspect peut-être animal, vous savez, c'est un aspect qu'on revisite beaucoup aujourd'hui, parce que l'être humain, il fait partie des espèces animales, c'est un animal, et pendant très longtemps, on a vu dans les animaux, on a voulu voir que ce qui est décrit comme la bestialité, l'animalité, mais en réalité, on a des collègues, Franz De Waal et d'autres, qui sont bien connus, qui ont bien participé à montrer qu'en fait, effectivement, c'est comme le tri sélectif, il ne faut pas garder seulement ce qui nous plaît. Autrement dit, chez les animaux, il y a effectivement des formes de violence et tout, mais il y a aussi les bases, les briques élémentaires de fonctions qu'on retrouve développées chez l'homme, comme l'empathie, la solidarité, le partage, etc. Il faudrait qu'on revoie avec Jean-Claude, qu'on se mette d'accord sur la définition des termes, il peut m'écrire.
Brigitte, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue, on vous écoute.
Merci de vos émissions. Juste pour témoigner, parce que j'entendais il y a quelques minutes votre intervenant qui parlait d'opérations sous hypnose. Mmh. Et c'était mon cas. Il y a 5 ans environ, j'ai subi une opération. Alors, c'est mon médecin qui m'a demandé, enfin mon chirurgien qui m'a demandé si j'étais d'accord pour me faire opérer sous hypnose. Et j'ai tenté l'expérience, et je dois dire que c'était concluant.
Racontez-nous.
Eh bien, c'est pas l'anesthésiste qui m'a fait cette hypnose, c'est un infirmier qui était formé. Mmh. Un infirmier qui était formé. Alors, ça ressemblait étrangement à une séance de sophrologie. Et ça m'a permis vraiment de supporter la douleur.
De la supporter ou de ne pas la sentir?
Je mentirais en disant que je n'ai pas senti, mais c'est plutôt maîtriser la douleur. Mmh. C'est une espèce de conscience et de maîtrise de cette douleur.
C'était une, comment dire, une expérience, vous en gardez un souvenir très riche, très, très dense ou un moment d'absence?
Non, j'étais complètement consciente et j'étais, je peux vous dire que j'ai trouvé que c'était effectivement une expérience très riche parce que c'était j'ai vaincu en fait, voilà, j'ai vaincu la douleur et alors j'étais assistée bien évidemment, hein, c'est pas moi toute seule, mais c'était une espèce de, oui, de défi que je me lançais aussi et ça m'a permis de ne pas avoir d'anesthésie. Mmh. Et donc de pas avoir de produits, hein, chimiques, mais comment dire, l'anesthésie c'était quand même présent et avait posé une voie veineuse. Mmh. Au cas où. Hein, j'avais quand même un parachute, on va dire.
Permettez-moi une dernière question, Brigitte, avant de soumettre votre témoignage à Lionel Nakache. Est-ce que vous avez le souvenir d'images qui auraient pu traverser votre esprit alors que vous étiez sous hypnose? Est-ce qu'on voit quelque chose?
Non, parce que ça ressemble vraiment à une séance de sophrologie où le praticien nous emmène là où... c'est-à-dire que dans la sophrologie, hein, on repère des endroits qui nous plaisent particulièrement, par exemple, et puis on y va. Mmh. Voilà. Mais
C'est de cet ordre-là, d'accord.
En toute conscience, hein, en toute conscience.
Merci beaucoup Brigitte pour votre intervention, Lionel Nakache.
Oui, j'étais vraiment très intéressé par le témoignage de Brigitte. Trois points rapides, c'est que on voit bien à travers ce que Brigitte raconte, à la fois qu'effectivement l'hypnose, comme je vous dis, c'est un état de conscience. C'est pas un état d'inconscience, c'est un état vraiment de conscience. Et au contraire, c'est ce jeu fictionnel qui va être important, qui va être mis à contribution. Et deuxième point aussi, c'est ce qu'on peut appeler la mise à distance. C'est-à-dire d'arriver à faire que le stimulus que vous receviez, ici, ce qui va être le travail chirurgical, qui peut donner naissance à une douleur, la capacité à pouvoir jouer avec, jouer vraiment un jeu JEU, ça veut dire à ne pas être sous la tyrannie du signe, du stimulus. Et que souvent, c'est lorsqu'on est sous cette tyrannie qu'on éprouve une douleur ou autre chose. Et là, c'est peut-être le parallèle avec ces signes, c'est-à-dire que les signes, on peut sortir de la tyrannie des signes, alors sans faire de l'hypnose nécessairement. Et troisième point, quand même, dire à nos auditeurs et nos auditrices que tout n'est pas possible par l'hypnose. C'est-à-dire qu'on peut effectivement avoir une combinaison de agents anesthésiques pharmacologiques et techniques d'hypnose, une combinaison des deux.
Encore une question sur l'hypnose, avant celle de Guillaume. Pourquoi on se sert de l'hypnose pour soigner les syndromes post-traumatiques? En quoi l'état hypnotique permet-il d'accéder à un état de la conscience qui permet de modifier, je ne sais même pas comment le dire, de modifier un sentiment de douleur suite à un traumatisme?
Ouais, alors c'est une question très complexe, je vais essayer de répondre rapidement. Premièrement, d'abord, je ne suis pas un spécialiste de l'hypnose. Je connais
mais
l'hypnose
parce que je travaille spécialiste sur du
la
cerveau.
Conscience et le cerveau en général. Voilà. Premièrement, dans les états post-traumatiques, par exemple, une des techniques qui s'est montrée vraiment efficace, c'est la technique d'EMDR, hein, dont vous avez
avec
entendu parler.
Le doigt et les yeux,
voilà,
c'est ça.
Voilà, exactement,
ouais.
Qui va en fait jouer sur la mise à contribution des mouvements oculaires. Hein. On connaît ça depuis longtemps, le pendule, etc. Mais de manière professionnelle, on pourrait dire, il y a ici quelque chose qui permet, et on voit une efficacité clinique dans différentes patients que moi j'ai pu être amené à suivre ou pour lesquels on peut le prescrire ou d'autres. Alors l'hypnose et les traumatismes psychologiques, ça peut être utilisé, mais il faut faire attention. Il faut faire attention parce qu'on vient de le dire juste avant, le principe fondamental de tout ce qui va être cette sophrologie ou cette hypnose, comme disait Brigitte tout à l'heure, et comme je vous le disais au tout début, c'est d'imaginer une situation. On va imaginer une situation. Et donc, imaginer une situation, c'est d'arriver à rentrer dans une narration qui, en réalité, n'a pas besoin vraiment de faire une copie réelle, fidèle au réel. Même, on va s'échapper du réel qu'on est en train de vivre. Mais pour arriver à créer un climat qui nous plaise. Mmh. Et alors, quand on est face à un problème de type psychotraumatisme, le problème, en France, ça s'est pas trop développé, mais aux États-Unis, on a des exemples catastrophiques. On peut faire naître des faux souvenirs comme ça. On peut faire naître, en fait, une situation qui, étant donné qu'on a une souffrance profonde et authentique, et je suis pas en train de nier ce qui a pu se passer, mais on va pouvoir construire une scène aujourd'hui, ici et maintenant, et qui n'a pas nécessairement une valeur de véracité. Mmh. Alors, vous pouvez vous renvoyer, c'est pour ceux que ça, et celles que ça intéresse, il y a les travaux d'Elisabeth Loftus, L-O-F-T-U-S. Certains de ses livres sont traduits en anglais, en français, d'autres non, qui est une psychologue qui vraiment un héros dans ce domaine, qui a montré la force de ces phénomènes-là. Mmh. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser l'hypnose, mais il faut du coup garder une distance avec ses propres représentations.
Guillaume de Rennes, que se passe-t-il, et ça c'est un signe complexe, que se passe-t-il lorsque l'on a le sentiment de déjà-vu, Lionel Nakache?
Alors, quand on a l'impression de déjà-vu, il faut dire, c'est un phénomène très fréquent. Il ne faut pas s'inquiéter. On peut s'inquiéter si on l'a très, 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 très souvent, parce qu'il y a parfois des crises d'épilepsie qui peuvent se manifester uniquement par ça, voilà, sans autres symptômes. Mais le fait d'en éprouver, c'est tout à fait normal. Alors, ça reste encore un phénomène qui attire toute notre attention. Je vais donner une des pistes explicatives qui est sans doute la plus probable, qui est la suivante. C'est que quand vous vivez quelque chose que vous avez déjà vécu, il va se passer deux choses dans votre cerveau-esprit. Il va se passer que vous allez réactiver le souvenir de la scène initiale que vous avez vécue. Et il va se passer que vous avez un autre système cérébral, mais c'est comme un concert d'instruments, vous voyez, une sorte de musique de chambre. Vous avez un instrument qui active le souvenir et un autre instrument qui va activer le sentiment de familiarité. Dire ça, je l'ai déjà éprouvé, je l'ai déjà vécu. Eh bien, le déjà vécu ou le déjà vu, c'est quand en fait, votre instrument qui joue la familiarité, il se met à jouer alors que vous n'avez pas vécu déjà ce truc-là. Donc vous devez... Alors là, et on revient, c'est pas de manière persévérative, mais on revient sur le tout début de ce que je vous disais. Dans la perception, mais la perception aussi de nos souvenirs, toujours deux temps. Un premier temps inconscient, et en plus on n'est pas l'agent de ça, c'est pas nous qui le faisons, donc on ne sait pas que ça existe. Et un deuxième temps où on prend conscience. Eh bien, dans l'exemple qui est donné par notre auditeur, le premier temps inconscient, il déconne un peu, et il fait qu'il construit une impression de familiarité, mais sans le reste. Et donc quand vous, consciemment, vous prenez conscience, il y a une familiarité, mais je suis en train de vous parler, c'est... Mais j'ai déjà vécu ce moment.
J'ai une question personnelle. Pourquoi on sourit quand on comprend quelque chose? Vous venez de faire un raisonnement, je l'ai compris et ça m'a fait sourire.
Alors, je veux pas faire trop de projections, mais peut-être que c'est un sentiment de joie, voilà. Vous savez,
c'est étonnant quand même.
Ouais, c'est très étonnant. Je pense que c'est important à deux égards. Il y a un premier égard qui est les sentiments et les contenus mentaux qui sont les plus évolués, notamment tout ce qui a trait à la vie en société. L'humour, la connivence, mais aussi des choses négatives, l'humiliation, etc. Ce sont des choses qui sont des objets mentaux récents. Autrement dit, notre cerveau de primate, qui a évolué pendant des dizaines de millions d'années, il n'a pas nécessairement tout de suite construit ces représentations-là. Et je vous donnais tout à l'heure l'exemple de la douleur. Quand on éprouve une douleur psychologique, notre cerveau utilise les circuits de la douleur physique, qui eux ont une plus vieille histoire. Et bien pour la joie, c'est probablement la même chose. C'est que lorsqu'on a une joie de l'esprit, ça se manifeste par les signes physiques de la joie corporelle ou physique. Et ça, le deuxième point, je disais deux points, c'est que ça a aussi une dimension sociale. C'est que par votre sourire, vous me renvoyez le fait que ce qu'on a pu dire vous a procuré du bien. Moi, je peux le recevoir. Et à ce moment-là, moi, ça me fait aussi du bien. Je vous souris en boucle et on rentre dans une sorte de félicité.
Et on se met à bafouiller, voilà. Isabelle, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
Bienvenue à moi et à vous.
Vous êtes chez vous, vous êtes chez vous.
Voilà, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles, je vois vos paroles.
Ben voilà, c'est très gentil. Allez-y, on vous écoute, Isabelle.
Alors, je voulais poser une question à propos de la plasticité justement du cerveau. Mon fils a une agénésie du corps calleux, il est né comme cela il y a 30 ans. Lorsqu'il est né... les médecins m'ont dit qu'il serait handicapé mental profond, qu'il ne marcherait pas avant 10 ans. Moi, j'ai refusé avec son père le diagnostic des médecins et nous l'avons mis dans les mains d'une kinésithérapeute absolument géniale qui lui a appris à coordonner ses mouvements pendant un an à raison de 4 heures par jour. Nous avons rencontré également un ostéopathe qui a pratiqué une ostéopathie crânienne qui a fait en sorte d'alléger un peu la boîte crânienne pour que le cerveau respire un peu. Aujourd'hui, mon fils a 30 ans. Il est légèrement handicapé, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il n'arrive pas à faire, c'est-à-dire à compter ou des choses comme ça. Il n'est pas totalement autonome. Mais moi, ce que je voulais savoir, c'est parce que vraisemblablement, le cerveau a compensé. Je voulais savoir si ça pouvait durer comme ça jusqu'au bout. Si le cerveau pouvait évoluer, s'il pouvait acquérir encore plein de choses. Voilà. Alors, il est très doué, il fait de la musique, il fait plein de choses. Il a un rapport social extraordinaire. Donc, voilà.
Merci beaucoup, Isabelle. Lionel Nakache vous répond.
Oui, alors je réponds à Isabelle. Bonsoir, Isabelle. Très rapidement, parce que je pense que pour les auditeurs, il faut leur expliquer aussi ce que ça veut dire, parce que agénésie du corps calleux, alors tout le monde sait que dans votre cerveau, il y a deux hémisphères, hein, un gauche, un droit. Et les deux hémisphères, ils sont unifiés parce qu'ils communiquent entre eux à travers une sorte d'autoroute de fibres neuronales, donc des grosses fibres blanches, de la matière blanche, qui fait en fait un pont qui communique entre les deux hémisphères. Et c'est très important parce que c'est ce qui permet d'unifier le travail des deux hémisphères. Donc on a deux hémisphères, mais une pensée, si vous voulez. Et ce dont parle Isabelle, l'agénésie du corps calleux, ça veut dire que le bébé naît sans ce corps calleux. Donc sans ces voies de connexion qui permettent aux deux hémisphères de communiquer. Alors, il y a plein de choses dont on pourrait parler, mais très rapidement, je pense que initialement, ce qui a pu se passer il y a 30 ans, donc hein, c'est pas aujourd'hui, mais ça peut encore se passer aujourd'hui, c'est que lorsque sur les premières échographies, on découvre qu'il y a une agénésie du corps calleux, eh bien les pédiatres peuvent se dire, ah, est-ce que c'est uniquement ça, ou est-ce que ça peut être ce qu'on appelle un syndrome malformatif où il y a encore beaucoup d'autres choses et qui peuvent parfois conduire à des situations très difficiles de handicap, ce qui en soi est une situation d'informer les familles, etc. Donc j'imagine que ce climat était très difficile pour Isabelle, pour son mari. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, et ça reste aussi un champ de recherche, à l'ICM, on a une équipe qui travaille beaucoup là-dessus, c'est que la plupart des enfants, heureusement, qui naissent avec une agénésie du corps calleux, en fait, ils vont très bien, la plupart d'entre eux. Alors, et dans le cas du fils d'Isabelle, elle nous dit qu'il y a quelques difficultés, peut-être, mais qui était très, très aidé par la kiné, par différents traitements, et puis par l'évolution spontanée. Donc, il y a de la plasticité cérébrale très importante. Cette plasticité, pour répondre à la vraie question qu'elle nous pose, elle peut continuer chez son fils à se manifester, à se développer, en sachant quand même que derrière ce mot, comme toujours, il ne faut pas galvauder les mots, c'est-à-dire que tout n'est pas possible. C'est-à-dire que, comme le corps calleux n'est pas là, il ne pourra pas pousser ou revenir, il ne sera jamais là. Mais ce qui n'empêche pas, notamment, il y a d'autres chemins qu'emprunte le cerveau pour communiquer entre les deux hémisphères, ce qu'on appelle les commissures et des voies profondes. Voilà, mais
merci pour cette réponse précise à notre auditrice, à Isabelle. Un sentiment de lecteur, Lionel Nakache, en lisant votre livre, je n'ai pas cessé de penser à la poésie. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, bon, si, j'en ai une petite idée.
Bon, c'est moi qui vous souris alors.
Oui, non, mais j'ai une petite idée. C'est-à-dire que dès lors qu'on n'est plus dans le réflexe, je le dis comme ça, rapport à un signe, mais qu'on peut se tromper dans son interprétation et donc à partir de ce moment-là, affirmer une liberté, par rapport à la norme, on est dans une grammaire parallèle, transverse, qui me semble être de l'ordre de la poésie. Alors, je ne sais pas si vous nous avez cassé Freud, vous citez Descartes, mais je ne sais pas quel rapport vous-même vous avez à la poésie dans l'exercice de votre discipline.
Bah écoutez, ça me fait très plaisir parce qu'effectivement, j'aime beaucoup la littérature. La poésie, j'ai un rapport un peu plus complexe, mais à travers ce livre, en fait, ça a redoublé, en fait, mon amour pour la poésie. Et précisément pour ce que vous venez de dire. C'est qu'en fait, le processus, pour moi, il est comme ça. C'est que dans la vie de tous les jours, sans faire attention, vous avez des accidents et vous prenez un signe pour autre chose. Et comme vous l'avez dit, ça nous révèle comme liberté, comme agent libre. En se trompant, on découvre qu'on est libre, qu'on n'est pas soumis à la tyrannie ou au joug des signes. Et l'étape d'après, c'est que vous pouvez intentionnellement décider d'utiliser les signes, en l'occurrence les mots, comme auteur. Pour provoquer cela chez vos lecteurs, afin de les forcer pour accéder à l'image poétique que vous voulez communiquer, de les obliger à rompre avec la tyrannie du signe, autrement dit, à détourner l'usage standard d'un mot, par exemple. C'est souvent l'impression qu'on a quand on lit une poésie. On détourne l'usage standard d'un mot, ce qui va obliger le lecteur à réfléchir à la signification de ce détournement et parfois à comprendre le sens non détourné du mot grâce au détournement. Donc, autrement dit, je pense qu'effectivement, la poésie, on peut l'envisager, c'est pas la seule façon, mais en fait, comme l'action délibérée qui vise à provoquer des accidents de collision chez les lecteurs en détournant un signe pour paradoxalement arriver à faire comprendre le sens du signe, mais non pas de manière automatique, mais comme vous le disiez, de manière libre. Et c'est vrai qu'en relisant des poèmes de René Char, par exemple, ou d'autres, et notamment aussi Prévert, et beaucoup d'autres, notamment en France, mais pas que, voilà, donc ça me fait très plaisir que vous me disiez ça.
Paradoxer l'orthodoxie, comme disait un spécialiste de littérature pour décrire l'ironie.
Ouais, c'est parfait, je ne pourrais pas dire mieux, voilà, c'est exactement ça, et je pense que c'est quelque chose qui est profond, non pas ce que je dis, mais le phénomène en question. C'est qu'on peut, du coup, promouvoir cette liberté et essayer de l'échanger entre plusieurs personnes.
Vous parvenez à écrire de manière fluide et simple ou vous êtes assailli par la réflexivité et les collisions ?
Alors, c'est deux choses. Il y a à la fois le dialogue conscient-inconscient intérieur, mais j'ai la chance d'avoir une épouse extraordinaire aussi avec qui cette écriture est un exercice de vie et de dialogue permanent. Donc voilà, et puis je sais, comme en même temps je fais de la neurologie, de la recherche, je trouve du temps un peu voilà pour.
Bon, on vous invitera à nouveau pour parler d'amour parce que on a besoin de savoir ce qui se passe dans la tête à ce moment-là. Merci infiniment Lionel Nakache d'être venu au micro de France Inter, le chant du cygne, aventures et mésaventures de nos interprétations quotidiennes, est publié chez Odile Jacob. Merci encore.
Merci beaucoup.
Le journal à suivre.